Alors, ça me fait penser au musée d'art modeste qu'on trouve à Sète. Est-ce que vous êtes des chercheurs en art modeste?
Je sais pas si on dirait modeste.
Non, modeste, en fait, c'est intéressant parce que c'est un terme qui accepte la hiérarchie. C'est un terme qui dit oui, nous, on n'est que ça. Moi, je trouve pas ça modeste. Quand je travaille sur la bande dessinée, que ce soit à l'Intrus ou à l'école de BD d'Angoulême, je travaille avec des gens qui ont parfaitement conscience, par exemple, que ils sont investis dans le secteur le plus dynamique de l'édition française depuis 20 ans et ils se trouvent pas modestes. Hein. Je bosse avec des gens qui vendent 70 000 bouquins chaque fois qu'ils en sortent un. Quand ils regardent un universitaire dans les yeux, la modestie est pas du tout du côté de l'auteur. Hein. C'est très très net. Nous, on fait des bouquins qui se vendent à 300 exemplaires. Donc ça dépend où on met la modestie, justement. Le musée des arts modestes a un intérêt, et c'est peut-être là, pour le coup, qu'on pourrait effectivement revendiquer, même nous, l'adjectif. C'est que dans la situation actuelle de l'université, qui est une situation de dénuement matériel sur laquelle tout le monde est d'accord, du premier étudiant de L1 jusqu'au président de l'université, et tous se battent d'ailleurs, y compris le président, pour obtenir de nos tutelles plus de moyens et un respect un peu plus intense de notre travail, dans cette situation-là, nous, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est dans des disciplines dans lesquelles, pour bosser efficacement, on n'a pas besoin d'un séquenceur génétique ou d'un cyclotron. On peut travailler avec notre bibliothèque, avec un papier et avec un crayon. Et de ce point de vue-là, ouais, on revendique une modestie, mais qui n'est pas du tout celle de nos objets iconotextuels. On revendique une modestie qui est celle de nos disciplines. On a la chance de pouvoir travailler avec très peu de moyens. Et à l'Intrus, en fait, on est dans un tout petit labo, avec très peu de chercheurs, très peu de doctorants, très peu de moyens. Vous voyez, ce studio, par exemple, il fait deux fois la taille de notre bureau, à peu près. Et c'est pas grave. On arrive à avoir une productivité absolument monstrueuse. Alors, de ce point de vue-là, oui, il y a probablement une modestie qu'on serait prêt à revendiquer. Mais pas du point de vue de nos objets. Ils sont pas modestes.
Alors, je rebondis également sur ce qu'on trouve dans la présentation du laboratoire, hein, sur votre site. Il y a question de stratégie d'émancipation. Ah.
Wow, ça c'est ça c'est le piège. En fait, toute forme d'enseignement supérieur, peut-être toute forme d'enseignement, hein, c'est une stratégie d'émancipation. On fait partie, parce qu'on est des enseignants, hein, on fait partie des gens qui pensent que le savoir... L'inculcation d'un esprit critique, c'est ce qui nous émancipe. Et c'est ce qu'on pratique dans nos recherches aussi. Quand une doctorante, par exemple, nous explique qu'elle travaille sur la réception de la peinture nordique en Allemagne au XIXe siècle, on se dit, mais c'est quand même très, très tordu ce sujet. Et puis, quand on l'entend nous présenter son travail, on se rend compte que finalement, dans la recherche, ce qui est intéressant en sciences humaines, c'est cette pratique du détour. Qu'est-ce que cette exploration à long terme sur les peintres qui sont allés dessiner les fjords peut apporter à la connaissance de la grande peinture au XIXe siècle? Eh bien, c'est un regard émancipé, c'est-à-dire qu'on va sortir de l'adoration des grandes œuvres pour comprendre comment se faisait la construction même du regard sur la peinture. Qu'est-ce que c'était que regarder la peinture? Et cette étudiante nous montre déjà, tout simplement, que regarder la peinture, ça passait par ne jamais voir de peinture, puisque la plupart des gens ne connaissaient de la peinture que des reproductions en gravure, en noir et blanc. Et donc, tout d'un coup, on se met à dire, mais alors, cette vénération de la grande peinture, elle est faite par des gens qui sont ignorants de ce dont ils parlent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'émancipe, parce qu'on se dit, mais si je doute de ça, à ce moment-là, peut-être que je peux regarder aussi l'ensemble de mon entourage avec un regard plus dubitatif, moins naïf, moins crédule. C'est bien ça qu'on essaie de faire avec justement nos déplacements, no notre mise en question des hiérarchies, notre travail sur les transferts. Qu'est-ce qui passe d'une culture dans une autre? Qu'est-ce qui ne passe pas? Pourquoi ça passe pas? Donc voilà en quoi on essaye d'être émancipateur. Mais je pense qu'en fait, n'importe quel labo de sciences humaines pourrait se revendiquer de cette ambition émancipatrice.
Il y a peut-être une spécificité quand même à nos objets du point de vue de cette question de l'émancipation, c'est que, si, pour dire les choses de façon un petit peu schématique, mais c'est pour aller vite, depuis la révolution industrielle et l'apparition des cultures de masse, dans la deuxième moitié du 19e siècle à peu près, disons, il y a un discours très constant qui est un discours qui a été tenu par la plupart des disciplines académiques, qui a été tenu en philosophie, en sociologie, en littérature, en histoire des arts, et qui est toujours tenu aujourd'hui, qui est un discours qui consiste à dire, attention, il y a un certain nombre d'objets qu'on essaye de vous faire prendre pour de la culture, mais qui n'en sont pas, qui sont des produits qui sont destinés, au fond, à gaver les masses. Parce que les besoins culturels des masses, ce n'est pas les besoins culturels de l'élite. L'élite, elle a une vraie subjectivité instruite, éduquée et formée. Elle peut apprendre à goûter sérieusement de vrais produits artistiques. Mais la masse, en fait, elle n'a pas ces compétences-là. Donc faites attention, ce que vous prenez pour de la culture de masse, ce n'est pas de la culture, en fait, c'est la nourriture de la masse. Et cette nourriture, elle est élaborée par des industriels de la culture de masse qui font des produits préfabriqués. Et on peut analyser de cette manière-là pratiquement tous les produits culturels de masse, depuis le feuilleton du 19e siècle jusqu'au manga contemporain, en passant par le jazz. Il y a des analyses absolument terribles d'Adorno sur le jazz au début du 20e siècle qui dit à quel point c'est pour lui une musique qu'il faut prendre avec des pincettes. On peut faire le même type de lecture sur des choses très différentes. On l'a produite sur Disney, on l'a produite sur le déferlement des animés à la télévision à l'époque de Goldorak, on l'a reproduite à l'époque du jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est un discours qu'on pourrait tenir sur les réseaux sociaux. Attention, méfiez-vous, en réalité, c'est pas de la culture, au contraire, c'est la dégradation de la culture. Et finalement, c'est asservissant. Hein, le feuilleton populaire du 19e, il a servi son lecteur, exactement comme le réseau social aujourd'hui, il a servi l'adolescent, exactement comme Ségolène Royal pouvait dire que Goldorak ou Candy asservissaient les bébés zappeurs à la fin des années 80. D'un certain point de vue, notre travail et notre propos consistent à nous emparer de ces objets qui sont délégitimés, mais délégitimés au point où on dit qu'en réalité, c'est des objets qui produisent de la servitude, pour regarder comment, au fond, on n'est pas probablement en train de commettre une énorme erreur de lecture en disant ça. Pour regarder comment, au fond, il ne serait pas possible de faire un tout petit peu confiance aux lecteurs, de faire un tout petit peu confiance aux usagers, aux praticiens de ces produits culturels-là. Et on part au fond d'une hypothèse qui est très simple et qui est le vrai contenu de l'émancipation. Et qu'est-ce qui se passe si on essaye de reprendre tous ces objets-là, mais sans prendre les gens pour des cons ? Qu'est-ce qui se passe si on fait confiance à leur intelligence ? Qu'est-ce qui se passe si on part du principe qu'en fait c'est des sujets ? Et que ceux qui regardent, ils le regardent avec leur intelligence propre, leur subjectivité et du coup leur liberté propre, de telle sorte qu'ils en font, eux, des objets qui les enrichissent et qui les émancipent. C'est pas nous qui l'inventons, ça, hein. C'est ce qu'on appelle les cultural studies depuis le milieu des années 60. Et un des points fondamentaux de ce mouvement qui est fondé par un littéraire, justement, anglais, en 1964 à Birmingham, ça consiste à dire, je vais aller regarder ce que lisent les ménagères de la classe ouvrière des Midlands, donc vraiment le secteur populaire et ouvrier de l'Angleterre du début du XXe siècle, hein, autour de Manchester, de Leeds, de Liverpool. Et au lieu de considérer que ben évidemment, ces femmes-là sont incultes, qu'évidemment, on les gave avec le feuilleton et on leur fait bien rentrer dans le crâne tout ce qu'on veut parce qu'elles ne sont pas éduquées culturellement. Je vais considérer, dit ce monsieur, Richard Hogarth, je vais considérer qu'au contraire, elles savent ce qu'elles font. Et je vais essayer de comprendre comment elles construisent leur identité, leur subjectivité propre et leur liberté à partir de ça. Et il utilise des expressions très intéressantes. Il parle de consommation nonchalante. Il parle d'attention biaisée. C'est un des premiers à dire dans les années 60, vous savez, en fait, la pub, ça marche peut-être pas si bien que ça. Il est possible que le consommateur, face à une pub, il ricane, il soit dans la distance, il ait énormément de regards critiques et d'incrédulité. Et on s'inscrit, nous, vraiment complètement dans cette tradition-là qui consiste à dire, sur tous ces produits culturels de masse, on ne fait pas d'angélisme. On n'oublie pas qu'évidemment, derrière, il y a des industriels qui vendent des produits. On n'oublie pas qu'il y a une structure capitalistique qui est là pour faire du profit sur le dos des consommateurs. Pas une seconde. En revanche, on veut absolument faire le crédit aux gens, que ce soit pleinement des gens, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur niveau économique, quelle que soit leur classe, c'est des individus avec leur âge. Et c'est des individus avec leur propre stratégie. Oui, un enfant et même un bébé, c'est un sujet face à un produit culturel, de la même façon que la fameuse ménagère de moins de 50 ans est un sujet face à un produit culturel, de la même façon que l'ouvrier des années 60 qui écoute une dramatique radiophonique, c'est un sujet devant un produit culturel. Et il faut les prendre comme tels. Et là, pour le coup, on va parler d'émancipation, c'est-à-dire qu'on va dire, en fait, une pratique culturelle, un usage culturel, c'est comme ça qu'un individu choisit de construire sa propre liberté. Et il faut le regarder avec ces lunettes-là.
Et alors, mener des recherches émancipatrices ou émancipatoires, ça a un écho particulier quand même dans un contexte récent d'attaque du monde universitaire autour de condamnation de ce qui serait de l'islamo-gauchisme et compagnie.
Ah ben, il est absolument évident à nos yeux que le type de travail qu'on fait se situe au carrefour de cette réorientation très profonde des contenus, des formes et des méthodologies des études qui sont dans le viseur de notre ministre bien-aimé ou du Figaro Magazine. C'est-à-dire que cette espèce de fantasme collectif qu'on a successivement essayé d'appeler islamo-gauchisme ou wokisme, c'est-à-dire deux choses qui n'existent pas, hein, c'est ça qui est intéressant, il dit quoi ? Il dit « Ah, attention, aujourd'hui l'université est gangrénée par tout un tas de courants d'études qui sont en train de devenir absolument majoritaires. » Premier point, alors là il suffit de débarquer dans un labo d'histoire de l'art, de pharmacie, de droit constitutionnel ou de sociologie pour constater que non, c'est pas vrai. Voilà, tout simplement, factuellement, c'est pas vrai. Et en plus, toutes ces études, c'est des études qui viennent des États-Unis où les problématiques sont complètement différentes et où déjà tous ces gens qui sont fanatisés, radicalisés, sont en train, grâce à la cancel culture, grâce à d'autres machins, généralement dotés de noms anglophones qui font peur, vont complètement transformer la manière dont on pratique la transmission et l'enseignement et la recherche dans l'université française. C'est vraiment terrifiant. On est effectivement, nous, on a un point rouge sur le front à partir du moment où ce discours-là est tenu, parce que de fait, quand on s'intéresse à des histoires de transfert culturel ou de construction des identités, bah effectivement, dans les questions qu'on se pose, il y a des questions de genre, il y a des questions ethniques, il y a des questions de domination sociale, sexuelle, raciale, et l'émancipation, c'est toujours l'émancipation de quelque chose, c'est l'émancipation par rapport à une oppression, à une domination, à un asservissement. Donc dans ces problématiques-là qu'on agite, nous, considérablement fréquemment et depuis longtemps, ben oui, bien sûr, tous les marqueurs de ce que le blanquero-figarisme, parce que moi aussi j'ai le droit de fabriquer des ismes, tous les marqueurs de ce que le blanquero-figarisme nous reproche, ils sont là. Je voudrais juste rappeler deux choses. Le féminisme, il n'est pas né en Angleterre ou aux États-Unis il y a 10 ans. C'est des décennies et des décennies d'études, on en est au moins à la 4e vague d'études féministes intellectuelles. La pensée décoloniale, c'est pas une importation américaine. Le livre de Mohamed Sali sur le décolonialisme dans l'histoire française, il est publié chez Maspero en 65. La première grande synthèse sur le lien entre les sciences et la colonisation, elle est publiée en 75, la deuxième en 1980. C'est des études qui ont 50 ans en France, qui ont traversé les méthodologies des sciences humaines et sociales depuis plus d'un demi-siècle en France. Que nos adversaires soient eux-mêmes des ignorants crasses, tout le monde le sait parmi nous. On n'est pas du tout effrayé par cette charge-là. On a juste affaire à une génération qui passe là et puis qui, pour des raisons politiques qui la regardent, elle, a besoin de nous taper dessus. Mais on était là 10 ans avant eux et on sera là 20 ans après eux. C'est pas grave du tout.
Et pour rebondir sur cette question de l'ancrage vraiment français, tu disais que cette remise en question de la soi-disant absence de culture des classes populaires, tu la rattachais, toi, aux cultural studies et aux années 60 en Angleterre. Moi, je rappelle aussi à nos étudiants que si les cultural studies n'ont pas tellement pris en France, c'est parce que ce secteur, il était déjà occupé par des chercheurs français de premier plan. Et on peut parler de Pierre Bourdieu, hein, pour les questions d'hierarchie culturelle. On peut parler de Michel Le Certeau pour la question du braconnage et de la liberté du sujet qui n'est jamais réduit à un consommateur.
De Françoise Héritier pour ce qui est du croisement entre féminisme et anthropologie. Enfin, on pourrait multiplier les noms. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que ça ne veut pas du tout dire que on est bien effectivement cette jeune garde qui monte. On n'est pas jeune du tout, on a 50 ans tous les deux et on est en train de monter vers rien du tout. C'est pas du tout notre objet et c'est bien plus intéressant que ça en vrai. C'est-à-dire quand on participe au quotidien aux travaux du labo, ben non, on n'est pas d'accord nous là-dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est des points sur lesquels on est en débat en permanence. Non, on n'a pas une idéologie féministe, on n'a pas une idéologie décolonialiste, on n'a pas une idéologie politique qui soit homogène. Politiquement, dans notre labo, on a des positions très différentes. Et on s'étripe parfois, et on s'étripe gentiment et poliment parce qu'on a des méthodes qui nous permettent de le faire, sur des questions qui sont des questions très concrètes, sur des questions d'écriture inclusive, sur des questions de prise en compte des différences sociales, raciales ou ethniques. On n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas les mêmes points de vue, on n'est pas d'accord. C'est des problématiques sur lesquelles nous, on ne fait pas d'idéologie, on travaille.